Ça s'appelle le Culturarium.
Le Culturarium.
Un podcast de la compagnie Spoutnik.
Si au plus proche des habitants et des habitantes, on s'est dit on va faire sans véhicule et sans hébergement.
Vous avez dit culture ? C'est quoi derrière ce mot ? Qu'est-ce qui fait du commun ? Et toi ? C'est quoi ta définition du mot culture ? Et si on essayait d'inventer ensemble un culturarium ? Tu mettrais quoi dedans ? Toutes ces rencontres, tous ces mots enregistrés, nous vous les partageons ici. En collaboration avec Euricart. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons enfin remplir la mission donnée par Sabine du Café du Siècle. Trouver Marcelou. Nous arrivons avec notre petit chariot à Saint-Bosile-du-Bétois, petit village avec sa grande rue, vraiment très longue, très longue. Un peu partout dans le village, des livres, des bouquins, mais aussi des jeux et des jouets posés en tas dans des recoins, sur les bords des fenêtres, devant une porte. Nous découvrons ce village avec son plan d'eau en bord de rivière. Mais où est Marcelou ?
Il y en a plusieurs de Marcel, des mémoires du village.
Au détour d'une rue, nous rencontrons finalement Annick. Annick est comédienne et autrice de la Badiane Compagnie. Nous marchons quelques pas avec elle. Elle porte une caisse de livres dans les bras et nous découvrons que c'est elle, la fée qui dépose les livres et les jouets un peu partout dans le village, pour tous et toutes.
Ils sont tous des Marcel.
Tous des Marcel à Saint-Bosile.
Non, sinon, voilà, la culture, vous êtes passé au nouveau café, là.
Café de la Poste.
Non, le café, là, le café de la place.
Ah, café de la place.
Ouais.
Pas encore, là, on se promène.
Parce qu'elles viennent d'ouvrir, c'est trois nanas qui viennent du tiers-lieu de la Grange.
Okay.
Elles ont ouvert il n'y a pas longtemps, parce que ça a été basculé d'un bar, j'irais, de chasseurs, et pas cueilleurs, et qui, maintenant est entre les mains de trois femmes qui transforme ce café en café culturel, okay. En tiers-lieu.
Les Moufettes.
Ça s'appelle Les Moufettes, elles ont un site. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place, qui surprennent un peu l'ancienne population, on va dire. Et en même temps, ils commencent à s'acclimater. Bon, je vois au café, il n'y a pas de coca, il n'y a pas tout ça, mais il y a d'autres saveurs, il y a du jus de gingembre, voilà. Et comme il y a une ouverture suffisante, c'est pas sectaire, du coup, il y a quand même des anciens qui viennent, commencent à être curieux. Mais c'est long, hein.
Toi, tu mettrais quoi dans un...
Des livres, déjà.
Tu mettrais quel livre ?
Alors, des livres, si possible, avec des croquis, des images, des paroles, de la poésie, de la réflexion poétique sur l'univers, sur la place de l'humain dans l'univers et pas que sur Terre. Eh, Mathilde, tu sais où il habite, Marcel ?
Ah oui, je connais bien.
Alors ?
Ah, parce qu'on a eu une mission sans nous dire ni l'adresse, ni le numéro de téléphone.
Alors, est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous donner le numéro de sa... Vous pouvez appeler sa fille, parce que comme il est quand même assez âgé.
D'accord.
Ce sera plus simple.
Merci, Mathilde.
Bonne journée.
Ça y est. Nous allons enfin rencontrer Marcelou. Il fait déjà chaud quand nous montons le chemin vers les rochers. Mais est-ce la bonne maison ? Nous l'appelons, nous crions son nom.
Marcelou ? C'est Marion et Mickaël !
Ah, c'est vous qui venez ?
Oui !
Vous avez du matériel. Faut faire le tour.
D'accord.
Sur le matériel, là.
Marcelou est bien là, en haut, sur sa terrasse. Il nous accueille et nous offre un verre d'eau bien fraîche.
Moi, c'est Marion.
Oui, moi, Marcel.
Et Michael.
Enchanté.
Michael, va enchanter, entrez. C'est chaud, hein.
Vous voulez qu'on enlève les chaussures?
Non, pas du tout. Ici, c'est bon, la franquette.
Alors, c'est le siècle. Comment vous avez atterri au siècle? Par hasard.
Il n'y a pas de hasard dans notre histoire.
Le hasard fait bien les choses.
Et Fabien, il nous a envoyé au Café du Siècle. Il nous a dit, un lieu de culture, pour moi, c'est le Café du Siècle.
Ah oui.
Et donc, j'ai rencontré Sabine au Café du Siècle.
Sabine, oui.
Et Sabine, son lieu de culture, enfin, son prélèvement de culture, elle m'a dit, il faut trouver Marcelou.
Ouais.
Et donc, c'est elle qui nous envoie.
Oui, mais eux, ils font beaucoup. Moi, je fais plus rien, mais enfin, bon. J'ai fait. Et on ne peut pas être et avoir été. Je suis natif de Casia, je peux vous raconter des histoires fabuleuses. Parce que j'étais militant du textile et j'étais responsable, parmi d'autres, d'une fédération qu'on appelait Acutex, habillement, cuir, textile. On a fait une grève en 68, on avait plus de 2000 ouvriers dans les réunions à la salle polyvalente, à la salle, ce qui est le marché aujourd'hui. Là. Un mois de grève, pour 10 centimes de l'heure. Je ne suis pas mécontent de ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés entre deux et deux CRS. Mon patron, il avait un pansement sur la tête parce qu'il avait reçu un œuf un peu dur. J'ai vécu 68 de manière heureuse. Et je m'en félicite. Oser lutter, oser vaincre. Ce que j'ai retenu. Toujours.
Nous, on travaille sur cette notion de culture.
C'est un beau travail.
Si vous arriviez à me donner votre définition de c'est quoi pour vous la culture, vous diriez quoi?
C'est le sens de la vie. C'est tout. Je suis, comment dire, tout. Je ne peux pas dire une. C'est tout. C'est un tout, la culture. Comme pour le jardin. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, d'un juvin, une bonne terre, avant de récolter, et un bon climat. Mais la culture, c'est un tout. Moi, je suis d'un milieu d'origine très catho, conservateur. Aujourd'hui, on dirait que c'est pas l'extrême droite, mais c'est entre les deux, plutôt la droite, quoi. Mais à ce moment-là, vous n'aviez pas le choix. J'étais enfant de cœur, j'étais à deux doigts de devenir plus que ça dans la religion. Et un beau jour, devant le siècle, j'allais à mes rendez-vous hebdomadaires religieux et j'ai fait demi-tour. Le demi-tour, c'est que je menais avec d'autres, toujours ensemble. Hein. Ma définition, c'est les cinq doigts de la main. Ils ne sont pas tous les mêmes, mais ils sont tous utiles. Et ce n'est que quand il en manque un qu'on s'aperçoit qu'il servait à quelque chose. Et je militais très fortement dans le syndicat. D'abord un syndicat, j'ai commencé, c'était la CFTC, qui est très marqué catho, mais le catholicisme social. Et comme j'étais d'une famille très catho, mon patron, qui était mon cousin, c'est une histoire fabuleuse, mon patron, mon cousin, allait de la même façon que moi, à l'église, s'agenouiller, communier, etc. Il dit, il y a quelque chose qui me chiffonne, on y va tous les deux. On est formé de cette façon-là, mais si j'analyse bien pourquoi j'y vais, pourquoi il y va, il me semble qu'il y a des motivations différentes. Donc il y a une contradiction que je ne peux pas résoudre. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Et c'est ça qui m'a fait changer. Donc je ne suis plus allé me mettre ce qu'on appelait la Sainte Table à côté de mon patron. Fut-il mon cousin. Et j'ai fait un renoncement qui m'a coûté très, très cher, mais je ne le regrette pas.
Quand tu dis que c'est un tout, la culture, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le territoire gangeois et suménois, ça serait quoi la particularité d'ici?
Difficile à définir, tu sais pourquoi? Est-ce qu'il y a un tel brassage de population? Avant, nous étions des populations entre nous. D'ailleurs, à Saint-Bosile, ils ont trois surnoms, les Saint-Bosilois. Le premier, c'est le Luzescambayach. Les Saint-Bosilois était un peuple, à l'origine, établi au bord de la rivière. La rivière, c'était leur point de nourriture. On pêchait le poisson. À ce moment-là, nous, quand on le pêchait, par amitié, on le donnait aux voisins. On était à demi nu pour le bas, dans la rivière, même l'eau d'ailleurs. Les gens qui passaient ici, qui voyaient ces gens de Saint-Mosile, les gens venus, ils disent l'Udescambayach. Et il y en a un qui a dit le débraillé. Non, c'est pas le débraillé. Parce que dans la braille, il y a deux parties. La braie, il y a la partie haute et il y a la partie basse, le cambao, en occitan, le jambal. J'ai une petite anecdote, mais qui vaut son pesant de saucisses. Parce qu'à ce moment-là, on était avec un copain, là, et on plaçait des nasses, des garbelles, on appelait ça des garbelles, pour attraper des anguilles pour manger. Et il me dit, écoute, j'ai déjeuné. Quand on attachait le fil, un vige, ce qu'on appelait le vige, l'osier. On attachait un fil, et là, le fil était parti. Donc il me dit, la garbelle, on la voit. Il me dit, tu peux y aller, hein. Tu vas l'attraper. Pour la rattraper, alors il me dit, n'aie pas peur, moi je ne peux pas y aller, j'ai déjeuné, j'ai peur d'avoir une indigestion. Vas-y. Mais il m'a dit, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors je commence à rentrer, je pose mon froc, et je garde que le slip. Et tout d'un coup, je sens l'eau froide qui me monte, et j'avance toujours, j'arrive là. Et je me mets comme ça. Putain, je vois la garbelle. J'attrape le fil, je tire la garbelle, une anguille comme le bras. C'était une prise pour nous, c'était sensationnel. Il y avait une pente de gravier comme ça. On ouvre la porte, l'anguille qui se faufile, qui fout le camp. Lui, avec un caillou, pam, il pète la tête. Et il est resté sur le carreau. On a mangé un très bon morceau parce qu'on faisait cuire ça à la poêle. Pour revenir au nom de ces Mosillois, l'Udescambayach, ils avaient les champs venus parce qu'ils étaient toujours dans la rivière. Le second, on les appelle le Girondels. Quand on arrivait à Saint-Bosile, il y en a un, je crois que c'est le planter qui a dit, c'est un village tout en longueur. Les martinets nichaient sous le bord des toitures. Alors il y avait des vols très très importants de martinets, et ils montaient dans Saint-Bosile et ils faisaient un cri particulier. Ils redescendaient dans la rivière et ils mangeaient les moustiques. On n'était pas embêtés par les moustiques, comme maintenant. Donc eux, ils faisaient un travail sensationnel avec les hirondelles. Et le fait de tourner comme ça, ils ont dit, Saint-Mosile, là-bas, c'est là-bas où il y a des races, c'est le Girondels. Et le troisième surnom, c'est les papistes. Pourquoi les papistes? Quelques-uns le savent, Omerta, et d'autres ne le savent pas du tout. Ça, c'est très, très, très ancien. Le village de Saint-Mosile, en 999, la première fois qu'il apparaît sur le nom de Pédoxini, c'est une femme qui s'appelait Dida, qui était à la plage, là, le masque est juste à côté. La plage, ça veut dire le versant. Et le don de Saint-Mosile à la communauté religieuse de Saint-Guy-le-Désert. Et je crois que la vraie définition, c'est des gens qui vivent au bord de la rivière, sur des avancées sur la rivière.
C'est étonnant de se dire que Saint-Mosile était un village de pêcheurs, en fait.
Oui. Pourquoi Saint-Baudile et pas Pédoxini? Pourquoi on dit Casiac et pas Saint-Léon? Pourquoi on dit Brissac et pas Saint-Nazaire et Cels? La plupart des noms qui finissent en ac ici sont des noms d'origine celtique, okay. Gauloise. Thorac, à commencer par Thorac, qui ne s'écrit pas avec un H. Une hérésie monumentale. Parce que là, on passe de la montagne à la rivière. Thorac, c'est une montagne. Et tous les villages qui se terminent par la finale A, c'est Thorac, Casiac, Brissac, Issensac, Vulpillac, Coupillac, Gignac, Florensac, sont un peu pau au bord de la rivière. Vous me parlez de la culture actuelle. Mais la culture actuelle, elle en est au même temps, au même niveau que la nature. Je me demande si ce n'est pas irréversible. Plus un papillon. Alors, je suis ici, j'avais toujours dans ma tête que quand je me retirerai, je ferai mon nid d'aigle. Je ne coupe l'herbe que quand la graine est tombée, qu'elle peut se reproduire. Et ainsi, je sauve certaines choses, mais il y a des choses qui ont disparu définitivement. Au coin du mur, il y avait la saponnaire, elle n'y est plus. Elle a disparu. C'est peut-être nous, quand on a fait les travaux, qu'on l'a fait disparaître, tu comprends? Parce que nous aussi, on n'est pas neutre dans l'affaire. La culture, c'est comme la nature. Il y a un brassage tel qu'on n'a plus. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Mais à mon avis, c'est une nouvelle culture qui naît, que je n'ai pas vécue, que je ne vivrai probablement pas. Mais en tout cas, par rapport à la culture ancienne où on vivait entre nous, tu te rends compte qu'on a passé notre enfance sans voir la mer. Sans voir la mer, à 40 km de la mer.
Marcelo nous raconte alors comment ils allaient faire le bois avec ses amis. Ils avaient eu l'idée de fabriquer un traîneau à roulement à billes, avec une planche et de vieux roulements à billes de camion. Ils montaient jusqu'au sommet de la Cardonil, la montagne que l'on voit quand l'on va vers Saint-Martin-de-Londres. À l'époque, tout autour de Saint-Bosile-de-Putois, tout était blanc. Il n'y avait que des rochers. Parce que tous les bois étaient coupés. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de gaz et pratiquement pas d'électricité. Donc, on se chauffait au fourneau, avec du charbon. Sur le Thorac, on dénombrait 32 charbonnières. Sans consommer du bois. Il y avait plein de gens qui vivaient de cela. On les appelait les Buscacci. Il y avait ceux qui déracinaient les chênes, ceux qui triaient les pierres, ceux qui montaient les murs et ceux qui faisaient le charbon de bois.
Là, pendant la guerre, interdit de couper un chêne. Ils nous laissaient, nous, le cadre, les genévriers, et le pudis pour les lapins, le térébenthe. Et on faisait nos fagots au sommet de la Cardonie, on remplissait le traîneau, comme on dit chez nous, coumoule, un devant pour guider et l'autre derrière pour pousser quand ça allait trop doucement. Il y avait dans la rivière des espèces de plantes de grandes chevelures. Mmh. On appelait ça, tu aurais dit, une grande chevelure de femme. Et ces chevelures de femme, à un moment donné, elles fleurissent. Et sur la fleur vient se poser une libellule violette, noir-violet. On va plus. Enfin, moi, j'y vais plus là-bas, parce que ça m'a fait peur. On voit que de la merde. Tu rentres là-dedans, tu vois de suite, c'est tout brouillé par là. Ça le faisait, nous. Mais c'était de la merde naturelle. Dans ces chevelures, il y avait du poisson. Et il y avait une façon de le prendre. Si tu prenais la chevelure dans le sens du courant, tu n'avais pas le poisson. Si tu le prenais en remontant, le poisson ne peut pas reculer. Il faut qu'il avance. Et clac, avec un petit peu de végétation, tu le coinçais et il ne te glissait pas. Et on avait entre les dents un morceau d'osier. Et sur ce morceau d'osier, on passait par la gueule du poisson et on le faisait sortir par la gueule.
Vous pêchiez en coiffant des cheveux, quoi.
Voilà. On pêchait dans ses chevelures. Il va aller chercher ses chevelures maintenant. Pourquoi ça a pollué? Et pourquoi ça a pollué? Moi, je vais venir avec ce glyphosate. Tu t'imagines qu'on allait dans les vignes, nous. J'ai élevé jusqu'à... On était nombreux à la maison. Jusqu'à 100 lapins. On a eu les cochons. On a eu les canards. Chaque année, il y avait une couvée de canards. Il n'y a rien de plus beau qu'une couvée de canards. Mmh. Vous avez une trentaine d'œufs comme ça, avec des poils. Et le canard d'Inde, c'est une race où le mâle et la femelle couvent à tour de rôle. Quand l'un va manger, l'autre reprend le relais. Et si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas vécu. Et on allait ramasser dans les vignes ce qu'on appelait le margal. Le margal, c'est l'herbe à mouton. Le vigneron, il labourait. À l'automne, il couvrait. Au printemps, il déchaussait. Nous, on allait derrière, on engrossait les, comme on appelait, soit on engrossait en rond, soit à balache. Et on ramassait l'herbe pour les lapins. Bien, à un moment donné, avec mon frère, parce que heureusement, on a travaillé toujours en équipe, entre frères et copains. Là. On arrivait avec des pleins sacs d'herbe, on mettait ça au lapin, et ces lapins, tu aurais dit un nuage. Et derrière, un sac de 100 kilos plein d'herbe, il n'y avait plus rien. Ils bouffaient tout, même les racines. Alors on leur donnait ça, et on leur donnait le pudis, le fameux térébenthe. Parce que le térébenthe, le lapin, il ne mange que l'écorce. En dernier, les branches les plus faibles servaient pour éclairer le feu. Donc rien ne se perdait. Et quand ils ont commencé à mettre ce glyphosate, dit c'est fini. Il n'y a plus d'herbe dans les vignes, il n'y a plus rien. Moi, pour moi, c'est le début de la fin. Et quand j'entendais tout ça, qui disait ouais, mais c'est plus facile, ta 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 ta. Vous allez voir maintenant. Vous avez le soir, quand on mangeait le soir dehors chez mon grand-père, avec une lanterne, c'était un nuage de papillons, de toutes sortes. Vous n'avez rien, vous n'avez plus rien maintenant. Et il n'y a même plus de cigales. On a entendu une, deux cigales cette année. C'est grave.
Ça serait quoi cette chose que vous garderez de votre culture ou des cultures que vous avez rencontrées sur ce territoire? S'il n'y en avait qu'une.
La lingua. L'occitan. Tant que vous avez de la tuile ronde, vous avez de l'Occitanie. Caner et pitiutet, ma mère mi braille à vous. Are que si ai grandet, mi braille tout soulet. Vous pouvez mettre, avec braille, vous pouvez mettre aussi le caleçon. Mais vous avez plein de petites chansons qui nous chantaient quand on était petit. Puis, quand on était petit, nous, on avait les plus petits derrière. Il fallait les garder. Parce que les parents, ils vivaient aussi. Hein. Ils faisaient des repas. Ils allaient au spectacle ou bon, ils allaient à des réunions entre amis, etc. Et nous, on gardait. Alors, ce qu'ils faisaient, par contre, c'était des repas de jusqu'à des jouvences. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une tradition. Perdu. Tu sais quand elle s'est perdue ? 1995, Jacques Chirac. Il a aboli la conscription. Je n'étais pas militariste, hein, mais il a fait une connerie. Il existait depuis le 12e siècle, au moins, une tradition qui s'appelait le pape gay. Chaque année, ils élisaient le guidon de la jeunesse. Et on appelle toujours ça, en occitan, le cadet de jouvence, la tête de la jeunesse. Ils étaient chargés de la surveillance du village, quartier par quartier, et ils élisaient, tu sais comment? Ils mettaient un poteau, ils faisaient une fête, la fête du pape gay. Ils mettaient un poteau, ils mettaient un semblant de perroquet en haut, et ils tiraient à l'arc. Et le premier qui le descendait, c'était le guidon de l'année. La conscription et la classe qui a existé jusqu'à de nos jours. C'était les conscrits de l'année qui étaient chargés d'animer le village. Alors, c'était plus là de sécurité, mais c'était eux qui étaient chargés de la fête. Je leur ai expliqué ça l'autre jour parce qu'ils se plaignaient qu'il y avait des fêtes de village qui étaient nées. C'était plus ou moins trusté par des associations où il n'y avait plus tellement de sens, si tu veux. Ouais. C'était plutôt des gens qui se mettaient un peu en valeur pour par la suite, quand il va y avoir une élection, paf, je suis le roi de la pétanque, paf, je suis le roi du judo, paf, et ça faisait une équipe, tu vois. Et je dis, et ils ont de la difficulté, si tu veux, à donner un sens, une orientation politique, en quelque sorte, à cet événement. Et ils sont retombés dans les anciennes coutumes qui sont la fête votive. J'ai dit, faites gaffe avec la fête votive, c'est la fête de la Vierge. C'est le 15 août. On faisait la fête à Saint-Mosil le 15 août. Puis ça s'est déplacé pour des raisons pratiques de tourisme, etc. etc. Le 15 août, il y avait les gens, les touristes commençaient à partir. Nous, on a tenu la fête. 5 jours. Sans subvention, les gens nous ont dit, au bout du... On devait la tenir 4 jours. Ils ont dit, il faut rester un jour de plus, parce que vraiment, on s'est vraiment amusé. Donc, on fait un jour de plus. Nous, on ne le faisait pas pour l'argent tellement, on le faisait pourvu qu'on paye les frais d'orchestre, les bistrots gardaient les boissons, et on faisait la fête comme ça. Et on l'a payé, tu sais comment? Avec le fifre et le hautbois. Tiens, va savoir ce que c'est le fifre. Alors, ils arrivaient chez le Pékin, ils leur disaient, allez, dès que vous êtes les jogues.
Qu'est-ce que tu
veux? Canter, et puis l'autre avait son tambour, et puis paf, à la sortie, il y avait la piécette. Le mulet. J'ai écrit une histoire sur le mulet blanc. Tellement que les gens en bas, ils ont mis il y a une petite ruelle où il y avait des curés en bas. Ils ont appelé cette ruelle, elle n'avait pas de nom, elle est privée. C'était apparti à nous et puis aux voisins. Rue du mulet blanc.
À cause de ton mulet.
Ah, de notre mulet. Qui était le mulet du village. Les gens venaient en bas de l'escalier et ils criaient à mon père et à ma mère. Yves, Emiliel, je prends le mulet. Un beau jour, j'arrive dans l'écurie, c'était moi qui le soignais. Il me fait. Oh, jamais de ma vie ce mulet m'avait fait ça. Ouh, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je l'approche, il m'a fait... Il me montre les dents. Ah, j'ai compris, j'ai dit. Il ne veut plus travailler. J'avais juste... Le seul problème, c'est que, en ne voulant plus travailler, c'était sa condamnation à moi. Et il est parti à l'écarissage. Et je l'ai pleuré. Je l'ai pleuré. Il avait travaillé tellement. Je pense que le gros défaut du point de vue de... Puisqu'on revient à la culture, on revient à nos moutons. Le gros défaut de la culture, c'est l'individualisme. La fin, c'est une autre culture. Mais la fin de la culture telle qu'on l'a connue, c'est l'individualisme.
Et alors, vous non, tu nous envoies échanger avec qui ou dans quel endroit?
Qui et quel endroit?
Dans le prochain épisode, nous irons faire un prélèvement de culture un peu particulier. C'était le Culturarium de la compagnie Spoutnik. Réalisation, prise de son et montage, Marion Raevski et Michael Théodore. Musique originale composée par David Couturier. Illustration, Bérangère Margot. Nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode et sur les routes des Cévennes, à la recherche des cultures. Pour cet épisode, nous remercions Annie, Mathilde, Marcelou et sa femme, et sa fille. Produit par l'association Eurecarte, dans le cadre de son projet culturel de territoire dans les Cévennes gangeoises et suménoises. Soutenu par la DRAC Occitanie, la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises, la région Occitanie, le département, la CAF et la direction départementale de la cohésion sociale de l'Hérault.